Merci beaucoup. Merci Yves, Nadia et Niloufer pour m'avoir associé à ce colloque qui, non seulement intervient sur un objet majeur des sciences sociales et de la compréhension du monde, l'espace public et comment l'espace public génère, organise, développe des pratiques de démocratie, notamment à travers les mouvements de Maïdan, mais aussi un colloque qui intervient à un moment particulier de notre histoire mondiale. En effet, l'attentat de Paris, comme l'a dit Yves, visait très clairement ces pratiques démocratiques de place publique. L'État islamique n'a pas visé des stricts intérêts de l'État français, mais une société définie précisément dans cette pratique de la place publique. Et c'est pour cette raison que je crois qu'il est important de faire le lien avec des mêmes offensives de l'État islamique sur d'autres démocraties de place publique. Rappelons l'attentat d'Ankara d'octobre dernier, qui, est comparable à différents points de l'attentat de Paris, et aussi l'attentat de Beyrouth du 12 novembre, qui visait pas seulement un fief du Hezbollah, mais aussi une rue populaire, commerçante, donc là aussi s'attaquer donc aux sociétés. Donc de ce point de vue-là, il est essentiel de travailler sur ces objets. Et donc je remercie encore les organisateurs du colloque d'avoir permis que la discussion et que la présentation de travaux puisse avoir lieu. Nous intervenons aujourd'hui sur le panel 3, les formes d'action et les activistes. Donc, comme l'a dit Yves, Lamine Al-Bouazizi n'a pas pu obtenir son visa, malheureusement. Mais je pense que la communication sera connue à travers une publication d'actes. Nous entendrons successivement Zeynep Ougour, qui mène une recherche de doctorat à l'EHESS, Alexander Bikbov, qui est de l'Université d'État de Moscou, Moscow State University, et Sofiane Makoufi, qui est chercheur indépendant en Tunisie et aussi activiste de la démocratie. Voilà, donc sans tarder, je passe la parole à Zeynep Ougour pour le mouvement LGBT à Gezi, Queering la sphère publique.
Bonjour. Je vais essayer d'établir une relation d'interaction entre le répertoire de l'action collective du mouvement LGBTI et celui du mouvement Gezi, en mettant au centre de mon analyse la sphère publique et la visibilité LGBTI dans la sphère publique, sa relation spatiale avec le parc Gezi et la relation du mouvement LGBTI de sens plus général avec Taksim comme espace urbain. Et sa relation avec la théorie queer. Tout d'abord, il faut dire qu'on ne peut pas parler d'un mouvement LGBTI ni une visibilité LGBTI dans la sphère publique avant les années 1980, et même les années 1990. Et la première manifestation du mouvement LGBTI dans la sphère publique, c'était une grève de faim organisée contre le maltraitement des homosexuels dans les prisons et l'arrestation des travestis pendant le Ramadan. Et je veux souligner que cette manifestation-là est réalisée au parc Gezi le 5 mai 1987. Et donc, déjà, le mouvement a commencé dans cet espace urbain-là. Et vers la fin des années 1980, il y avait eu une violence policière extrême qui était concentrée à la rue Ülker, qui se situe à Cihangir, donc toujours, c'est un quartier périphérique de Taksim. Et c'était comme un ghetto, entre guillemets, transgenre. Et donc c'était vraiment un quartier habité par les transgenres. Et il y a eu un projet de gentrification qui ciblait de sortir les travestis de la rue. Et en 1993, l'Association internationale de l'homosexualité a décidé de fêter les marches des fiertés à Istanbul. En fait, les organisateurs ont été arrêtés et la marche a été interdite Mais on peut dire que l'atmosphère créée pendant la préparation de cet événement a inspiré la fondation de Lambda Istanbul, qui est désormais l'acteur principal du mouvement LGBTI en Turquie. Cet événement a été suivi par la création de la revue Kaos Jele en 1994, qui est le deuxième acteur principal du mouvement, qui a commencé sa publication avec un appel aux gays, lesbiennes et tous les anti-hétérosexistes de partager leurs expériences individuelles et leurs histoires de sortir du placard. En 1996, la conférence Habitat 2 de l'ONU a décidé d'avoir lieu à un campus Taşkışla de l'Université Istanbul, qui est tout près de Taksim. Et cela a causé encore une fois la concentration d'une violence policière à la rue Ülker. Et cette fois-ci, l'aspect de gentrification était plus concret. Et les transgenres ont contesté cette violation-là. Donc déjà, on peut parler d'un aspect de droit à la ville dans ces années-là. Et cette atmosphère de politisation a inspiré la fondation des événements Bahar Ankara sous l'initiative de Kaos Jele en Ankara et Gustanbul sous l'initiative de Lambda Istanbul, qui étaient principalement les conférences, les événements culturels pour établir les échanges entre les individus LGBTI. Donc on peut dire que c'est cette volonté-là qui a inspiré la première marche de fierté en Turquie. Et je veux accorder une importance particulière à la marche de fierté. Et pour faire ça, je veux expliquer pourquoi je les considère comme quelque chose lié à la théorie queer. Donc, quand je parle de la queer, je ne veux pas utiliser comme LGBTIQ, car je pense que c'est une théorie tout à fait différente, distincte en elle-même. Et c'est en fait queer refuse toutes sortes de restrictions et de hiérarchisation de la sexualité. Et donc, c'est vraiment une théorie qui remet en question la relation entre le pouvoir et la sexualité. Et le queer n'oppose pas au pouvoir en disant que la sexualité est quelque chose qui appartient à la sphère privée et alors le gouvernement n'a pas le droit d'y intervenir. Mais par contre, queer vise à déstabiliser la dichotomie privée-publique. Et dans ce contexte, la marche de fierté est considérée comme une manifestation queer grâce auquel la communauté LGBTI imaginée se matérialise dans l'espace en fêtant publiquement sa culture, ses symboles, ses traditions, ses mythologies, etc. Et qui demeurent en général cachées du public. Avec la marche de fierté, la sexualité queer exclue de l'espace public s'y inscrit à travers une performativité spatio-temporelle. Et en effet, la marche de fierté n'assure pas seulement une visibilité queer, mais elle cause une réarticulation de manière temporelle de l'espace en détournant la spatialisation normative du désir avec la déconstruction de l'hétérosexualité constituée d'une manière spatiale et en menaçant la production sociale de l'espace quotidien. Alors, La marche de fierté fait partie des tactiques déconstructives spatiales qui remettent en question la relation entre le pouvoir et la sexualité. Et la première marche en Turquie a été réalisée en 2005 à la rue İstiklal, qui est au cœur de Taksim, et toujours très près du parc Gezi. Et d'abord, il y avait seulement une cinquantaine de personnes, mais au cours des années, le nombre a augmenté d'une manière incroyable et la marche a composé ses traditions comme les danses drag queen, la performance, etc. Et quand on revient au mouvement Gezi, on observe que cet héritage de la relation spatiale avec l'espace urbain et l'héritage de marche de fierté a inspiré le mouvement et influencé le mouvement, disons. Donc, quand on parle du mouvement LGBTI à Gezi, d'abord, il faut dire que leur visibilité était très frappante au parc. Et comme déjà, Gezi occupe un lieu particulier dans la mémoire collective du mouvement. Et en fait, le parc Gezi, en tant qu'espace urbain, avant le mouvement, il était en général C'était un lieu utilisé par les travailleurs et les travailleuses de sexe qui pratiquaient leur métier là-bas. Donc, c'était vraiment ces individus-là qui étaient les premiers acteurs influencés de la violence policière. Donc, et à Gizi, comme tous les autres manifestants, les individus LGBTI ont lutté contre la violence policière. En effet, pour montrer quel sens a eu le mouvement LGBTI à Gizi, je vais citer Yıldız Tar, qui est un activiste LGBTI, qui fait ressembler la Turquie avant Gizi à un immeuble qui est habité par les gens sans contact, qui vivent leur sexualité dans leur mahram, dans leur intimité, et sans connaître l'autre. Et il dit que Gezi signifie tout d'abord la destruction des appartements et le partage des mahrams. Selon lui, à Gezi, l'identité LGBTI n'a pas fait reconnaître sa normalité, mais au contraire, tous les habitants de l'immeuble ont reconnu la normalité de l'autre. Et au sens du déroulement du mouvement, le mouvement LGBTI avait une tente au centre du parc. Et les LGBTI ont peint des bulldozers capturés en rose. Et ils ont agité le drapeau LGBTI devant leur tente et dans les barricades. Et ils ont souvent organisé des danses drag queen, des petits groupes de parade avec des slogans et des chansons. Et on peut assumer que ce que l'on dit l'esprit de Gezi en se référant à la festivité et à l'humour du mouvement était le plus présent autour de la tente du bloc LGBTI. Et les slogans que je ne vais pas traduire comme « Direnayol »,« Ayresman devrim »,« Direnişin o biçimi », qui reflète le jargon du mouvement LGBTI ont été très populaires dans tous les acteurs du mouvement. Et une transformation importante au niveau du langage du mouvement a été le refus des jurons sexistes et homophobes utilisés en général par les supporters des équipes de football comme Çarşı. Et il y a eu un moment, ces supporters-là, ils ont appelé PD aux policiers. Et il y a eu un activiste LGBTI qui a dit « Mais les PD sont ici, les policiers ne sont pas des PD. » Et en plus, être PD, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Donc, loin d'être dénié ou refusé, ce cri-là a causé un questionnement. Et avec les féministes, le mouvement LGBTI a organisé des ateliers de jurons non sexistes et non homophobes, par exemple. Un autre questionnement a été sur le contenu du mot délicane, qui est entendu en général comme un mot qui a une connotation macho et masculin, mais aussi comme un complément. Et le mot délicane a été utilisé dans le slogan populaire « Sık bakalım, sık bakalım, kaskını çıkar, copunu bırak, délicane, kim bakalım » qui veut dire qui invite les policiers à laisser leur casque qui leur protégeait du gaz lacrymogène et leur bâton, leur matraque. Et dans les conditions égales, on va voir qu'il est délicane. Mais ici, ce délicane, il n'a pas une connotation masculine cette fois-ci, mais il réfère à tous les manifestants de Gezi, y compris les féministes, les femmes et les LGBTI. Donc, même on a parlé de délicane ibnelik, donc les PD délicane, qui est devenu une identité hybride. Et à Gezi, dans une mesure, on peut parler du stigmate PD, car il y a eu un autre renversement de stigmate qui était Rakay, Çapulcu, qui est le mot utilisé pour le premier ministre de l'époque, Recep Tayyip Erdoğan, pour désigner les manifestants. Donc, comme tous les manifestants de Gezi ont fait ce travail de travail sur eux-mêmes et les autres, on peut parler d'un renversement de stigma. Et l'impact de la visibilité des LGBTI acquise au parc Gezi est observable dans la période post-Gezi, notamment dans les deux marches de fierté qui ont suivi le mouvement Gezi en 2013 et 2014, qui avaient les thèmes comme résistance et contact. Et il y a eu ils ont eu la participation la plus grande de leurs histoires, disons. Et en fait, je veux vous montrer un petit vidéo si j'ai un peu de temps. Donc, c'est la rue Istiklal et c'est la marche de fierté de 2014. Donc, en parlant de la transformation de l'espace d'une manière temporelle, je veux dire que la rue Istiklal, ce jour-là, ça devient un contre-espace.
With me.
Donc,
il y a des performances. Come on, dismantle me. Do it slowly. My feet, my voice, take everything.
Et le cœur de l'armée, etc., sont utilisés dans le Holocaust.
Cause blindness of blind is useless.
Je vous demande de le dire, mais... suffit, je pense, et merci pour m'avoir écouté.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va passer tout de suite à la communication suivante, même si il y aurait effectivement beaucoup à dire sur cette excellente communication qui recontextualise, je veux dire, aussi le mouvement du Gezi. On passe la parole à Alexandre Birkboff, donc, for the paradox of the lost movement effect of self-control and self-representation in non-violent Russian protest since 2011. Thank you very much.
Hello. I'd like to make a sketch of the movement in the large Russian cities and some experience of the participation in it. I'd like from the very beginning to specify that there were some common points with many other movements which were already mentioned here yesterday, and also with Gezi movement. And especially, there were some points of moral protest which were articulated, and especially it was about dignity and against unlawful privileges of the governing elite, against the liar propaganda, against some quite absurd laws which were applied, for example, not to political sphere, but to the regulation of the adoptions. And there was a special law against the adoption of Russian orphans by American families. So there was a rally, one rally against that. So there is a moral dimension which is quite present in the Russian protest. Another point another common point with many other movements, it was the attack against official institutions. It was not against the representative democracy, it was for, at least formally, representative democracy, because one of the points of the Russian protest was and still remains that the institution, projected institution, designed institution, don't work. So the elections don't work, the justice don't work, doesn't work. And from that point of view, we should, or someone should, repair the institutions. And in some extent, much of the energy of the protest was directed towards these bad institutions or bad officials. But what was different from many other movements we know about, including Gezi, including Brazilian protest, it was the fact that the social justice was not at all articulated during Russian protest. And not only articulated, it was quite clearly banned from the protest agenda, because because representatives of different protest groups were kind of afraid that articulation of the poverty issues, of the income issues, may split the protest and divide richer and wealthier participants from those who are not wealthy and who are not so much well-being, so that some attempts coming from different groups, including far-left groups or some intellectual groups to which I belong, they were just mixed, they were just softened in some way in order not to let it in into public debate. And another point of so this is this the, I am showing to you some images which I selected were made in international languages so that you may understand better the character of some of the slogans. And another point which was quite impressive, but I think which was also quite common to some other movements, is that it was a protest which tended and pretended to be nice. And it was quite much effort put by the participants to represent the protest not as a violent protest, not as a protest which has a combative, militant dimension, but which is really nice, and the civilized people who came to the streets were just making something soft, something coming to the in pair with the optimization of the city, with new institutional design, with goodness, etc. And it's quite evident that it was partly a strategy of self-security in order not to be exposed too much to the police violence, but it was also partly the strategy connected to the vision of how the protest may function, of how it works, and it goes in pair with another particularity that being a protest that didn't touch the questions of social justice, it left many participants unaware about social questions. So when I participated in interviewing people in the streets, I coordinated a research group which was kind of militant and research group, which didn't consist only of sociologists. We were gathering interviews during the protest rallies, and many of the participants who were interviewed reported that they did not reflect before going to the street, this means in their life and the whole, they did not reflect about social injustice, taxes, migration, redistribution, social help, education, etc. So one of the points was that that was not only the protest which didn't wish to articulate social questions. It was a protest where the protesters, the manifestants, were quite unaware about social issues. And if we speak about the logic of participation and exclusion, yesterday we heard that at the Gezi, in Gezi, there was a kind of mutual exclusion between Kurd activists and people who were protesting around the Gezi Park. So in this case, in the Russian case, there was also quite a division between the interior of the protest and the exterior of the protest, and the interior was some political and moral claims, and the exterior was trade unionist and social movement participation who refused explicitly or implicitly to participate because they didn't feel that their claims could be heard, could be presented in this space. So, from the personal point of view, I mean, after being a sociologist, after having realized hundreds of interviews in the protest space, then at the sensible point, at the individual point, I was quite disappointed to realize that even in the arc of 2 or 3 years, the only question which was quite softly approached by the participants was the question of the free education, but not in a practical way. I mean, in the interviews, the participants, the manifestants, could report that they have bigger conscience larger conscious and larger acceptation of the fact that the education could be and should be free for all, or at least for the most threatened, socially threatened categories. But in other terms, there was no consensus or problematization of social issues, and this is what distinguishes quite clearly Russian protest and some other protests in post-Soviet space from the world movement. So here you see some images of produced by the participants, and this makes part of its particularity, where people went with quite much of inventivity and creativity. It was like in Gezi and some other places of protest, to present themselves, to share their irony and their deception with each other, without knowing each other. And this is something which gives, to me, a point to speak about self-representation. Because socially, people who came to protest to the streets were mostly those who did not participate in the protest or social movements before. They rejected quite clearly any political attribution, and they were claiming that we're not making politics. And they were coming not from the networks which were constituted beforehand in the districts, in the neighborhoods, in the professional sector, but coming directly from their flats, from their families and friends, and coming following some media or internet appeals. So coming back from, turning back from the protest, they were going back to families and friends, and then to work. And basically, following the interviews which were realized in the protest space, the protest didn't change much the lifestyles. So from one hand, we have quite a high mobilization, which is ordered, which is structured, following the weekend rhythm. So mainly, there were rallies of the weekend. On the other hand, we have quite little change in the lifestyles, in the ordinary sensibilities, and in some extent, people who were participating in the rallies didn't risk much. So it's quite a difference as compared to many other protests. Going out, it was more to keep the nice side of the playing. So another part was of what was observed and what I felt as a participant was kind of educated protest. And this refers quite clearly to what Yves Cohen said about the risks of the bad crowds. Could a crowd consisted of 70% of people with the university diplomas be a bad crowd? I doubt. I mean, when you see the people who tries to be nice and who come with flowers and who come to testimony and not really to act, neither violently nor practically, you ask yourself if this way of self-representation, of sharing experience and space which is relevant to the education level and nice mood, is not too much. In the sense that maybe crowds should be bad, should at least should be worse than what we observed and where what we had in Russia, because when you look at the bodies of the people, you ask yourself afterwards, is it really mobilization? I mean, is it a protest mobilization? Because most part of the participants came to see, to watch, to observe. To share some experience, but it's not really about creating something together in many cases. And it was like mostly in many cases to understand better what is happening. So many people came to the street to understand what is happening, and when they saw each other, they understood that it's happening something quite exciting, and it's true that all of us were sharing this experience of excitement. but it was not a proposition, it was not an invitation to collaborate. And in many cases, people were trying if they were speaking about it, if they were discussing the experience, it was to record it, to put in the nets, to share distantly. But in many cases, the discussions about political views, about social issues, etc., inside the protest space, personal discussions, were quite rare. And this is one of the ways just to film the events. You see that in some particular cases, people were making selfies in this way, quite interesting from the point of view of the regimes of the modes of participation. So here is the institutional framework of the protest. It's not really well seen, but people are waiting because they need to pass the control through kind of portique. The doors you have in the airports, so the security measures which were not installed for this particular protest, but in general, or this, for example, kind of police accompaniment. So the self-control of this protest, if you may understand from the images, from what I said about the level of education, the testimony attitude, comes in pair with the fact that on a very high level, the protest was prepared beforehand in the networks, in the blogs and the Facebook, in the discussions, which denied quite clearly revolution. And revolution was associated with blood, and the blood was associated with disorder, and one of the mottos which was launched by the participants, many participants, I mean, not only the headline speakers, but also by people who were not known before the protest, just in private blogs and Facebook accounts. They were speaking about the civilization, that we are civilized people, we shouldn't go to act, we shouldn't apply violence, we shouldn't go beyond the law, and in very, very rare cases in the first rallies when there were some disruptions, where there were some strange cases. For example, this is the shot when a person came to a journalist and broke his press card. So immediately, several participants from the manifestation came, blocked the person, called the police, and exercised themselves the self-control police function. And the most impressive part of the confrontation kept this kind of distance. I mean, like 1 meter. There were almost no direct clashes between the police and the manifestants. And only once, the 6th May 2012, there was a clash because the police attacked quite consciously the manifestation, and caused imprisonments, not of the police, but of the participants, in spite of the fact that most part of the manifestation used the tactics of evading police. So the police approached, the manifestations stepped out. And some clashes or conflicts between far-right and far-left participants, like in this picture, were calmed down and did not disrupt into a kind of violence. So testimony, listen, observe, and sometimes vote, but not really as an assembly experience, as we heard in the Maidan case. It's a kind of symbolic vote for the dismission of the high officials in Russia. And this is what you see. This is a picture coming from the first days of the Occupy kind movement, because the weekend rallies once interrupted, and there was an occupation of the space. And you see that still many people which discuss in smaller groups, and mainly this is a high expectation, a high attention of what is going to happen, and not a kind of creation of the space. And here is one of the days after when the space was created, and you see that mainly it's kind of a redistributive structure, which was in many respects, which was the center of the space. So to conclude in some way is to say that the protest, which didn't touch the questions of social justice, which tried to be not only civilized but only highly legalist, came into a kind of trap, because when people protesting in the streets tried to follow strictly the laws, the laws were changed. The law amended was quite severe towards the participants, and so to participate today in the protest is more difficult, not because you risk higher police repressions, but because you risk higher financial fines or higher level of disapproval from the point of view of law. And from that point of view, once again, I would like to make a kind of counter question to the one posed by Yves Cohen about the bad crowds, about the self-control. If the self-control is really something which is perfectly is going perfectly well to people who gather in the streets, if they wish to be non-violent, not only in their mood, but also in the practice coming to the final act, to each particular detail of the conduct in the streets. Thank you.
Thank you very much for your lecture, which provides many good main questions. We'll talk about later, after the lecture of Sofiane Makoulfi, de Casbah 1 à Casbah 2, comment on passe de la spontanéité à la politique.
Bonjour tout le monde. Bon, je vais essayer d'être bref pour laisser un peu le temps à la discussion. Et 15 minutes, voilà, je vais essayer. Je regarde là. Donc, mon intervention concerne essentiellement la Tunisie. Et je fais simplement une remarque au début pour comprendre un tout petit peu comment les choses se sont passées. C'est qu'on va parler d'un pays dont l'espace public et même l'espace privé étaient interdits à la liberté d'opinion ou à la pratique politique. Donc l'espace public était confisqué par le pouvoir en place et l'espace privé était très contrôlé. Donc, et pour faire comprendre comment les choses ont émergé, je vais utiliser une chronologie pour vraiment faire un peu comprendre, parce que les choses sont tellement complexes qu'on n'était pas impliqué, on n'était pas témoin, on n'arrive pas vraiment à comprendre comment les choses se sont faites et sont dénouées en Tunisie. Il faut simplement rappeler que les événements de la fin de l'année 2010 et 2011 ont été précédés 2 ans avant, en 2008, par l'occupation de l'espace public dans une petite ville au sud-ouest de la Tunisie qui s'appelle Rdaif, c'est le bassin minier, pendant presque 6 mois, où les gens ont coupé les voies publiques et les voies de communication, et ils ont campé dans la rue presque pendant 6 mois. Ça n'a pas émergé dans tout le pays, mais c'était réprimé, de telle façon qu'il y a eu 4 morts, à peu près 24 blessés par balle, et il y a eu après des jugements qui ont allé de 8 à 10 ans de prison pour les leaders de ce mouvement. Ce mouvement au bassin minier en 2008 était spontané, et après il y avait une auto-organisation un peu populaire parce que les forces de l'ordre étaient en premier lieu chassées de la ville, donc les gens ont fait une auto-organisation. Donc en arrivant en décembre 2010, l'événement déclencheur de ça, c'était le 17 décembre 2010, où un vendeur ambulant s'est fait saisir sa marchandise par les services de la municipalité. Donc, simplement pour dire qu'est-ce que ça signifie, c'est que depuis 2008, la grogne sociale commence à être très palpable en Tunisie, le chômage qui augmente, etc. Et l'interdiction de toute possibilité de revendication. Donc ce vendeur ambulant se fait saisir sa marchandise le 16 décembre par les services municipaux et se présente devant ce qu'on appelle en Tunisie la wilaya, c'est-à-dire le gouvernorat ou, si on peut dire, la super préfecture, et il s'immole par le feu. Donc, suite à cela, il y a eu des manifestations et une vague de protestations dans la ville de Sidi Bouzid, qui se trouve tout petit peu le centre, le sud-ouest de la Tunisie. Et ces protestations ont été violemment réprimandées, ce qui a déclenché encore dans cette région de Sidi Bouzid des événements. Le pouvoir en place à l'époque imaginait que ces manifestations vont être confinées à Sidi Bouzid, comme ça a été confiné en 2008 au bassin minier de Gafsa. Sauf que le 24 décembre 2010, les forces de l'ordre qui usent des balles réelles, donc ils ont blessé 9 personnes. Il y a quelqu'un qui était tué à Manzel Bouzayen, c'est une petite ville aussi de Sidi Bouzid, ce qui fait que à partir du 27-28 décembre, la grogne sociale et les manifestations commencent à émerger dans d'autres villes. Le président de la République à l'époque, Ben Ali, a fait une allocution le 28 décembre où il promettait de trouver des solutions sociales et économiques à la population. Personne n'a cru à ses promesses puisque 23 ans de pouvoir dictatorial ont fait qu'il n'y a plus de confiance entre le pouvoir et la population. Donc personne n'a cru. Le 29, le 30 décembre, ce mouvement commence à émerger et toucher d'autres villes. Le 30 décembre 2010, comme un geste voulant apaiser la situation, le président de la République démit de ses fonctions, ce qu'on appelle en Tunisie les gouverneurs, c'est-à-dire un peu équivalent au préfet en France, de ses fonctions, de celui de Sidi Bouzid, de Gendouba et de Zaghouan. Gendouba, c'est au nord, Zaghouan, c'est un peu aussi au nord, mais on commence à y aller vers le centre. Cela ne calme pas non plus les esprits. La colère grandissante commence à gagner toutes les couches sociales et le mouvement de contestation commence à émerger et toucher plusieurs autres villes. Du 30 décembre 2010 au 4 janvier 2011, l'insurrection gagne de plus en plus de villes du sud, du centre et une grande partie du nord. Le 4 janvier 2011, ce fameux Mohamed Bouzizi, qui est le vendeur ambulant qui s'est immolé par le feu, décède suite à ses blessures, ce qui fait un mouvement émotionnel et un émoi très important chez la population. Donc, on arrive au 8-9 janvier. J'essaie de faire un peu une chronologie pour qu'on arrive un peu à situer les choses. Donc, le 8-9 janvier, plusieurs manifestants sont tombés sous les balles à Kasserine, Séliana, Sidi Bouzid, et les forces de l'ordre commencent à quitter ces villes-là. Donc la population commence à chasser les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, qui sont un peu débordées, commencent à quitter les villes. Les militaires prennent place devant les lieux sensibles et les bâtiments publics. Les militaires ont été acceptés pour garder ces bâtiments publics et ces lieux sensibles par la population, mais pas les policiers. Donc à ce moment-là, commence un mouvement qu'on appelait un peu les comités de quartier pour s'organiser surtout au niveau sécuritaire et contre les vendettas, etc., dans ces villes-là. Le 10 janvier, l'ancien président Ben Ali refait une deuxième allocution, caractérisée par un ton agressif et menaçant à l'égard des contestataires, en utilisant une terminologie qui peut les qualifier de délinquants ou des gens qui menacent la sécurité de l'État, etc. Et il revient à son discours dictatorial d'habitude, ce qui fait qu'il y a complètement une rupture totale entre le pouvoir en place et la population. Un clivage qui va devenir définitif progressivement. Et Les slogans à ce moment-là dans les villes ne sont plus des slogans d'une demande et d'une revendication sociale, mais ça commence une revendication qui touche le pouvoir en place et le président en lui-même, lui demandant de partir en ayant des slogans essentiellement qui le touchent lui et sa famille, puisque sa famille à lui et la famille de sa belle famille, c'est-à-dire la famille de sa femme, ont mainmise sur toutes les affaires juteuses au niveau économique. Donc, au niveau de l'imaginaire populaire, cette contestation commence à prendre une forme d'héroïsme et de glorification de ces actes-là. Et dès le 11 janvier 2011, il y a un sentiment de fuse chez la population que la force de police ne maîtrise plus la situation et qu'elle essaye de battre en recul. Ce qui encourage les gens à occuper de plus en plus les rues et les places publiques, surtout à l'intérieur du pays, c'est-à-dire les villes du centre, du sud et du nord. Et tout le monde attend que ces mouvements-là touchent la capitale. Donc, le 11 janvier 2014, le pouvoir décrète la fermeture des lycées et des universités, puisque c'est les lieux de regroupement des jeunes, les lycéens et les étudiants, et de ces lieux-là qu'ils s'organisent pour se déplacer dans les lieux publics et manifester et occuper la place publique. À ce jour-là, toutes les chaînes de télévision internationale et les réseaux sociaux annoncent qu'il y a un cinquième suicide à Sidi Bouzid, c'est pas par le feu, c'est-à-dire que cette forme de manifester contre le pouvoir par l'émolition par le feu a pris quand même une ampleur très importante. Ce qui, bien sûr, provoque un mouvement émotionnel chez les gens. Et le syndicat, le puissant syndicat UGTT en Tunisie, pas au niveau de sa centrale, mais au niveau de ses organismes régionaux et de base, décrète des grèves généraux le 12, le 13 et le 14 janvier dans plusieurs régions, pas d'une façon simultanée, mais par un roulement de grève générale dans plusieurs régions. Donc, le 12 janvier, la deuxième ville de la Tunisie qui s'appelle Sfax, qui est un peu au centre, mais au début du sud, une ville côtière, qui est vraiment la capitale économique de la Tunisie, décrète un grève générale. Il y a eu une manifestation gigantesque de jamais vue en Tunisie, dans cette ville-là, où tout le monde a participé, la population, les syndicats du secteur privé, les syndicats du secteur public, tous les activistes. Ils ont occupé toute la journée la ville à Sfax, ce qui a fait sincèrement trembler vraiment le pouvoir et donner du courage à d'autres villes. Donc, le 11 janvier aussi et 12 janvier, la grogne commence à toucher les quartiers populaires au niveau de la capitale. Bon, il me reste 5 minutes, je vais y aller beaucoup plus vite. Donc, le président de la République fait une allocution le 13 janvier au soir, disant aux Tunisiens qu'il les a compris, faisant appel aux forces de l'ordre de ne pas utiliser les balles, mais bien sûr, ils n'étaient pas du tout entendus. Le 14 janvier, c'est la grande manifestation à Tunis, dont la grande artère, l'avenue Bourguiba, qui assiège le ministère de l'Intérieur, qui est vraiment le symbole de la répression en Tunisie et le symbole de la concentration de pouvoir sécuritaire. Donc, il y a eu des dizaines de milliers, je n'ai jamais vu en Tunisie, ils ont occupé la rue, ils ont assiégé le ministère de l'Intérieur. À 5 heures de l'après-midi, tout le monde a entendu parler dans les chaînes de télévision internationale que le président Ben Ali a quitté le pays, dont son avion avec sa petite famille restreinte. Bon, tout le monde a cru, mais vous savez, dans ces mouvements-là, chacun construit ses mythes. Tout le monde, bien sûr, a cru qu'ils ont chassé Ben Ali, mais on apprenait après que Ben Ali était parti en Arabie Saoudite pour mettre à l'abri sa famille et retourner, mais on lui a barré la route. Cela, bien sûr, ne peut pas se passer sans organisation avec les forces étrangères à la Tunisie et les forces internationales qui ont bien sûr certainement organisé quelque chose pour que Ben Ali puisse partir en Saoudite, accepter en Saoudite et ne pas revenir avec son avion privé. Donc, le soir même, Et il y a eu un problème constitutionnel en Tunisie parce que malgré ce mouvement populaire qui a fait de toutes les façons chuter le pouvoir d'une façon ou d'une autre, il y a eu un problème constitutionnel. Le Premier ministre se déclare prenant la place provisoire de président selon l'article 56 de la Constitution, parce qu'en Tunisie, il y a eu malgré tout ça un aspect de garder une certaine formalité de légalisme pour ne pas tomber dans l'anarchie. Chose qui lui a été contestée, le Premier ministre, parce que dans la Constitution, il faut que le président le désigne. Il ne l'auto-désignait pas. Donc ce qui fait que le 15 janvier, c'est le président de l'Assemblée nationale, entre guillemets, c'est une assemblée, mais c'était en général des élections qui étaient truquées, Ben Ali nommait ce qu'il voulait, mais légalement, l'article 57 de la Constitution, l'ancienne Constitution tunisienne de l'époque, permettait au président du Parlement d'être le président provisoire de la République pendant, je crois, 2 mois renouvelables, 1 mois, si je ne me trompe pas. Donc, à ce moment-là, Mohamed Ghannouchi, qui était Premier ministre de Ben Ali, refait un gouvernement, soi-disant, de coalition nationale, où il y avait 2 personnes seulement, 2 partis d'opposition dans ce gouvernement-là, mais le reste était des récupérés du gouvernement de Ben Ali, avec quelques ministres que le fameux Hakim Karoui, je ne sais pas si vous entendez parler en Tunisie, qui était dans le cabinet de Raffarin, qui travaille au Banque Rothschild et qui est très impliqué dans les jeux d'influence politique, a amené déjà lui-même, avec le beau-fils de Ben Ali, une liste de ministres de Tunisiens qui vivent en France et qui sont proches de lui pour les nommer dans le gouvernement. Ben Ali allait les nommer, mais il n'a pas pu les nommer puisqu'il était parti. Ils étaient nommés dans ce gouvernement-là, notamment Jouini, qui est prof d'économie ici à Dauphine, etc. Donc, le 23 janvier, je vais prendre encore 3 minutes, le 23 janvier 2011, il y a eu ce qu'on appelle Kasba 1. Kasba 1, c'est la place du gouvernement. La nomination historique de ce lieu-là, c'est Kasba, mais c'est la place du gouvernement, là où il y a le premier ministère. À l'époque, on appelait premier ministère, maintenant on appelait présidence du gouvernement, parce que la Constitution a changé les appellations. Donc, ce 23 janvier, les gens ont venu manifester là pour demander que tous les ministres figurent du pouvoir de Ben Ali quittent le gouvernement. Chose qui était faite, mais restait Mohamed Ghannouchi, qui était un premier ministre de l'époque de Ben Ali. Il faut dire simplement que ce Mohamed Ghannouchi, le premier ministre, n'était pas l'enfant de l'appareil politique du parti au pouvoir, mais il était l'enfant de l'appareil administratif de l'État. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'objections sur lui, mais quand même, la contestation de sa place au premier ministère va continuer, de telle façon que le 20 février, il y a eu ce qu'on appelle Kasba 2, c'est-à-dire un grand un rassemblement, et le premier ministère et la place du gouvernement a été assiégée par des dizaines de milliers. On parlait à l'époque de 80 000, 100 000 personnes. Il faut dire que la population tunisienne, c'est entre 10 millions, 11 millions. Donc quand on a 100 000 dans la rue, proportionnellement, c'est quelque chose de très important. Assiéger la place du gouvernement, les ministres ne peuvent plus se rendre là-bas, le premier ministre ne peut plus se rendre, ce qui fait que le 27 février, ce premier ministre Mohamed Ghannouchi a démissionné. Il faut dire que moi, de ce mouvement-là, j'étais témoin et j'avais le sentiment qu'il y a quand même une certaine spontanéité chez les gens de chasser toutes les figures de Ben Ali, mais il y avait beaucoup d'argent qui était utilisé sur cette place-là, ce qui laissait entendre que cette spontanéité était manipulée par des forces non identifiées pour arriver à des fins politiques. À ce moment-là, Mohamed Ghannouchi démissionne le 27 et on nomme un nouveau Premier ministre qui est M. Beji Caïd-Sebs, qui est maintenant le président, et que les gens, à ce moment-là, plient bagages et rentrent chez eux. Sauf que cette génération qui est moins de 40 ans ne connaît pas Beji Caïd-Sebs, qui bien sûr fait partie du système, de l'oligarchie qui a toujours gouverné en Tunisie dans le système politico-économique. Il était ministre chez Bourguiba, il était ministre et soutien de Ben Ali, mais puisqu'il avait presque 86 ans, ceux qui étaient à moins de 40 ans ne le connaissaient pas, donc il était accepté. Il y a eu un remaniement gouvernemental à ce moment-là. Najib Chabi, qui était l'un des ministres, a quitté. Voilà. Pour conclure, pour dire que, par exemple, Kasba 1 et Kasba 2, ils avaient des revendications, mais ils n'avaient pas un programme. Ce qui fait que, pour moi, je vois que le système et l'oligarchie qui a toujours gouverné en Tunisie au niveau de ce système-là, a récupéré le pouvoir. Il y a eu des élections 8 mois après. L'administration était récupérée par eux. Ils ont fait disparaître tous les dossiers. Ils ont réorganisé les choses qui ont été faites. De telle façon, quand on a fait les élections le 23 octobre 2011, il y a des nouveaux partis de l'opposition qui sont arrivés, se sont fait trouver coincés entre ce système-là qui s'est remanié pendant ces 8 mois et entre aussi leur amateurisme de gérer la situation. Donc la spontanéité, je trouve, a conclu en Tunisie un climat de liberté jusqu'à maintenant où les gens quand même ont récupéré l'espace politique, mais que le système s'est renouvelé de lui-même. Donc la spontanéité a ses limites, dont les changements. Elle peut provoquer des changements, mais en même temps, elle ne peut pas rechanger le système si, dans cette spontanéité-là, il n'y a pas une vision socio-politique, culturelle, révolutionnaire qui l'accompagne. Merci.
Merci beaucoup. Comme nous avons peu de temps, je vous propose donc la méthode de travail suivante. Nous allons prendre toutes les questions de la salle. Et puis chaque intervenant, au fond, choisira de répondre à telle ou telle question, éventuellement de faire une brève synthèse. Ça me paraît effectivement une bonne chose pour que tout le monde puisse s'exprimer et d'avoir effectivement des échanges fructueux. Moi, pour ma part, je vais dire très brièvement 3 choses. D'abord, en remerciant les intervenants, leurs 3 exposés, en fait, ont vraiment nourri la réflexion du panel 3, les formes d'action et les activistes. On peut considérer qu'effectivement, dans les 3 cas donc étudiés, la question du programme politique ou de social issues ne sont pas complètement effectivement apparentes. Néanmoins, il faut peut-être effectivement se demander si on ne peut pas avoir des approches différentes des questions politiques et sociales, et notamment celles qui ont été portées par ces mouvements de Maïdan. Le deuxième point, c'est la question des grammaires, hein, la grammaire du corps, la grammaire du langage, avec la manière dont, effectivement, les protestataires récupèrent des injures pour en faire des emblèmes d'honneur. La créativité visuelle à travers les affiches, les slogans. Hein, et je crois que pour le Gezi, au fond, ce calicot rond, même avant, hein, pour les manifestations d'LGBT, on voit aussi aux obsèques de Randink avec effectivement ce slogan très travaillé, hein, par des designers sur « Nous sommes tous Randink ». Hein, donc c'est le journaliste donc d'origine arménienne qui a été assassiné en janvier 2007. Et puis aussi le grammaire de la légalité, c'est-à-dire ce qui a effectivement troublé les forces de l'ordre puisque les forces de l'ordre n'étaient pas habituées à réagir à des manifestants qui refusaient toute violence. Je pense que c'est effectivement quelque chose de commun. Enfin, dernier point, bon, c'est plutôt une question. Est-ce qu'on n'a pas affaire finalement aussi à des révolutions conservatrices? Je veux dire par là, effectivement, des révolutions qui veulent conserver des acquis certes extrêmement fragiles, mais présents dans ces sociétés. Hein, pour revenir sur le Gezi que je connais bien, le parc du Gezi n'était pas seulement un lieu de présence en fait des travailleurs du sexe dont parlait Zeynep. Le Gezi était un lieu extrêmement partagé. C'était l'un des rares parcs dans le centre d'Istanbul et un parc qui mélangeait en fait les groupes sociaux, les personnes. Et d'une certaine manière, le monde du Gezi était d'abord de conserver au fond, cette richesse, cette expérience. Alors, la question peut se poser. Et si c'est un mouvement de nature conservatrice, hein, on peut bien sûr discuter de ce que veut dire conservateur, mais ça veut dire aussi que ce mouvement a un avenir, d'une certaine manière, parce qu'il combine, au fond, des innovations avec aussi des situations de valorisation d'un ensemble d'acquis sociaux qui sont exhumés à travers ces mouvements. Voilà effectivement ce que je voulais dire. Je propose effectivement qu'on passe la parole à l'ensemble des auditeurs hein, pour des questions. Et puis après, donc chaque intervenant répondra en faisant un peu une synthèse.
Alors, un commentaire pour parce que ce qui m'a frappé, c'est que en fait, même si vous ne parlez pas du tout, évidemment, de la même région, Alexander et Sofiane, on dirait que... Quelque part, vous faites un peu les mêmes constats quand Alexander, tu parles en français, tu comprends. Oui. Quand tu parles des limites de la force mobilisatrice de ce qui s'est passé sur la place. Et toi, Sofiane, quand tu passes de Casbah 1 à Casbah 2, et ça me fait penser aussi à ce que disait Shaima hier quand elle disait que Tahrir, c'est finalement aussi hein, une sorte de piège. Toi, tu as utilisé, je crois, le mot piège en disant ils sont tombés un peu dans un piège. Et Shaima, hier, disait, bah, au fond, quand ils sont arrivés à Tahrir, ça a été un peu la fin et pas juste le début. Et donc, en fait, ça nous pose tous la question de savoir si la place, est-ce que c'est un début, mais est-ce que c'est pas aussi une sorte de clôture de tout ce mouvement. Bon, dans le cas de la Tunisie qui a commencé à Sidi Bouzid, il y a toute une dynamique après qui bien sûr produit des effets exceptionnels, mais qui produit aussi une clôture. Donc ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a des contextes radicalement différents et ça ressort quand même de pas mal de communication. Donc ça, c'est juste un commentaire. Et Sofiane, je voulais juste... Enfin, si tu peux développer un peu sur la différence, qu'est-ce qui s'est passé entre le 1 et le 2 de Casbah 1 à Casbah 2? Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments? Pourquoi la manipulation dont tu parles?
Well, I would like to ask a question to Sasha first and then to Sofiane. Sasha, the question of social justice, it seems that it is quite not present in any of the squares we are speaking about. And this question, it seems to me, was brought to the places by some leftist groups and so on. The places were self-determining their own objectives, and their own objectives were very diverse. They could be social, as in Brazil, the transportation fire. But in other, it was not a question for the people gathered on the square. Why to bring this question from outside? The second point about you as a Russian activist in Russia, there were Nadia. There were not a square experience in Russia. The question of the democracy on the square is not a question for Russia. There were demonstrations, but there were not a permanency of demonstration on a square. It's not a question for Russia. But I would like to ask a question to the activist sociologist with Sasha. Sasha was very curious to the Maidan, to the square, and you were one of the very few Russian people going to Maidan to learn something. And I would like to know, what did you learn in Maidan? Why did you go to Maidan? And the question now, I will switch to French. I'm very struck je suis très frappé par ce que je viens d'entendre. Je crois que, du coup, je n'ai rien compris à ce qui s'est passé depuis ces 5 ans. Je crois que je n'ai rien compris à ce qui s'est passé en Tunisie, qui m'avait semblé le lancement de quelque chose de tout à fait neuf, c'est-à-dire la capacité, justement, de foules rassemblées spontanément sur diverses places, avec parfois des groupes, parfois des partis, parfois des syndicats, et en particulier en Tunisie, effectivement, la tradition... Par exemple, le syndical a été extrêmement important, beaucoup plus que dans d'autres pays. Mais il m'avait semblé que, justement, la force de ces mouvements résidait dans leur spontanéité. Alors là, j'entends que la spontanéité était manipulée. Je viens d'entendre manipulée par des forces non identifiées. Et est-ce que depuis 5 ans, on n'a pas pu identifier ces forces ? Qui a payé les gens pour venir sur les places faire des manifestations spontanées et qu'ils ont quitté immédiatement quand il y a eu le départ du président ? Qui a payé ? Alors, justement, le départ du président, il m'avait semblé que dans cette réflexion sur la démocratie des places publiques, justement, ce qui nous avait frappé tous, et dans tous les pays, c'est qu'il y a eu un moment d'une grande victoire de ces places publiques. Ben Ali est parti. Mais non seulement Ben Ali est parti, vous dites pas changement de système. Bien sûr, Ennahda, et il y a il y a quelque chose aussi de très fort dans une présence du système en Tunisie. Mais est-ce que je me trompe en pensant que, par exemple, la Tunisie est un exemple extraordinaire dans le monde arabe et musulman, par exemple, dans ce préambule de la Constitution qui autorise la liberté de conscience ? Est-ce qu'on n'a pas là quelque chose qui est un accomplissement, un achievement à l'échelle du monde, non seulement du monde musulman, mais du monde entier ? Est-ce que la Tunisie, là, n'a pas obtenu quelque chose par la liberté exercée sur les places, justement, sur ce dont on parle, est-ce que la Tunisie n'a pas obtenu quelque chose qui, sans doute, n'est pas irréversible, mais qui est un acte, justement, peut-être pas du peuple, on peut discuter si c'est le peuple, mais c'est un acte qui est dû au peuple tunisien. Est-ce que c'est pas ça que nous devons penser, justement, même si, effectivement, l'après-coup des mouvements et du mouvement tunisien est souvent répressif, réactionnaire, conservateur, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est accompli véritablement ? Voilà.
Thank you very much. I have two questions and one comment very much on the crowds. Because crowds have been gentrified already in the technological discourse. The wisdom of a crowd is the title of a popular book. The idea of the crowdsourcing. So from this point of view, something has happened to the idea of the crowd before people ended on the streets, and this is very much perceived. But this is a crowd without physical presence. When technology people speak about crowd, they are not crowd with bodies. And I do believe, because when you are talking about self-representation about Russia, and I'm sorry because of the language, this is the only one that they can follow. But there is one quite interesting story. When you ask people on the street, and there was quite a lot of story, who are you, and especially when you go to the interviews, when they talked about themselves, it was very much the idea of the creative class. We're there, we're the creative class, we're here. And the problem is how it became possible for them to speak like this. Why it is normal for the creative class to represent itself. And part of it is the language of the regime itself, because of a depoliticization nature of the Putin regime before the protests. The idea of the creative class was very positively used by the regime itself in terms of modernizing and modernization of Russia. So in a certain way, when they went to the street and start speaking about themselves as a creative class, they basically spoke as the modernizers. Without this type of a previous discourse of the regime, this self-identification is not going to be there. But here comes my two questions. The first is, and probably if it was said by others, but in all of these protests you have slogans in English. Why? To whom they speak? Erdogan does not speak English, at least as I know. And Mr. Putin also does not speak English, and most of the people in the country does not. Why the English language slogans were so much common? And I find this quite important part of the identity of it. It is especially true when it comes to some of the sexual minorities and others and so on. Why? Because I do believe it's very important for these slogans to try to identify to whom they speak. And then comes a question to the Russian case, which I found personally very interesting, and I'll be very much interested in your interpretation. As you know, there was and here's a major difference between Turkey and Russia. There was a crash on both sides. In the case of Turkey, basically the protesters ended up on the minority side, in the last elections. In Russia, when basically the Crimea came, many of the people that have been on the streets joined the new majority. Basically, Crimea is ours. there was quite a lot of public opinion polls being done, and as I probably mentioned to you yesterday, support for Russia's actions in Crimea was higher in some of the urban centers that have been protesting than in a country as a whole. I find it interesting because it has something to do with the discourse of dignity. Dignity was a very important discourse for the protesters, dignity of the citizens, but then President Putin also used the discourse of dignity of the state. It was about the dignity of the Russian state, in the way people on the streets have been cheated, Russia has been cheated in the international field. So I'm very much interested how this transformation of Occupier by some of the people basically ended up supporting Occupy Crimea. What is your reading of this?
Très brièvement, à propos de la spontanéité, j'aurais la question suivante. Est-ce que, pour les trois intervenants, vous ne pensez pas que l'une des intentions de la spontanéité ne soit pas justement de prendre le monde à témoin? Ce qui expliquerait d'ailleurs le recours, pourquoi pas, à la langue anglaise, qui est l'un des moyens les plus faciles de parler à tout le monde aujourd'hui. Évidemment, l'utilisation des technologies, mais c'est-à-dire qu'un regroupement sur une place publique a pour, assez spontanément pour intention de faire s'approprier par les autres, au niveau donc du monde, pourquoi pas, à l'échelle mondiale, ce qui arrive chez eux. Cet aller-retour, est-ce que ce n'est pas une des données contemporaines d'un rassemblement spontané contestataire?
Yes, I wanted just to follow up. It's not a question, but just to follow up the discussion on one hand, manipulation of the crowds, but especially about the question you asked, why in Turkey the protesters joined the minority, and in Russia, why they joined the majority after Crimea. That is the, I think, one of the elements maybe we can scrutinize in these movements is their relationship to the national narrative. And all these protesters, almost all of them, they don't recognize themselves in the national narrative. So that explains, on the one hand, the language issue, because they speak horizontally to other movements, like LGBTI, using English, that can be. So they create a kind of more cosmopolitical, global, they make part of it. Which, this, the fact that they are not contained in the national narrative, the way the state defines the frontiers of the public sphere as a community of a given language, one religion, majority, like in the Turkish case, there is this element that these protesters are also treated by the media and by the politicians as traitors in many places, as traitors, those who are alienated, and we are all attacked now in Turkey. Gezi was a turning point. That really totally different paradigm now happens. The whole the discussion in Turkey is on different parameters. And one of the elements is who are the traitors of the community, they who are alienated. These people are represented as those who are alienated, whereas in the Russian case, they recreated a national discourse. That's what Erdogan is trying as well with the Kurdish issue and so on. So I think we have to pay attention to this fact that these protesters, public space movements, are larger than the national community and the national narration of the politicians who want to keep them and discredit them by a political discourse, who want to regulate and don't want the spontaneity. It will be the same issue in France, not like this, of course, but today after the criminal attacks, people are spontaneously on the square. They are having ways of funerai, for instance, not the official one, but totally individual, personal, invented forms. So there's always this tension between more organized, politically regulated forms and spontaneous coming from below, which sometimes go beyond the not only politics but also the national community of the narration of a national community. I think this tension is important. I don't know if this played out also in Tunisia.
Merci. Donc, je vous propose, comme prévu, donc, donner d'abord la parole à Sofiane Maloufi pour une réponse politique de toutes ces interventions.
D'accord. Je vais répondre brièvement sur la question de l'utilisation de la langue en Tunisie. Enfin, oui. Just. Je crois qu'il ne comprend pas en français, notre ami, c'est ça? Non, je vais.
In English.
In Tunisia, the language was used in Tunisia is Arabic, and to talk to the Tunisian, but to talk to the world, committee organization to talk in English or in German or in French. Especially, we used the Facebook to talk to Tunisian, and that it was in Arabic. And Al Jazeera and Arabic France 24 was used by us to talk in Arabic for Tunisian people. But for BBC or, for example, the world media, we used committee in Spain, in France, in England, in Canada, in German, in Italy, to talk with the languages used in those countries. I think it's different between Tunisia and Russian in that case. Je ne sais pas la peine que je traduise ce que j'ai dit en français. Non. Bon. Donc, pour revenir à plusieurs questions. Bon, je viens à votre question, Yves. Bah, je n'ai pas eu le temps de développer à la fin, hein, parce que je crois que j'étais un peu pris par la chronologie. Je crois que c'était arrivé en Tunisie, c'est unique dans le monde. C'est-à-dire qu'un mouvement spontané a provoqué quand même des changements profonds dans le système politique. On est passé en Tunisie d'une dictature étouffante à quand même un système où la liberté politique existe, où la démocratisation, je ne peux pas dire de la Tunisie, est complètement démocratique parce que l'équilibre des institutions, etc. Mais la marche vers la démocratie, je crois en tant que citoyen tunisien, qu'elle est difficilement réversible, malgré beaucoup de tentatives. Parce que le fait que la population a récupéré l'espace public, cet espace public et cette société civile, même si la société politique et les partis politiques sont un peu faibles, mais cette société civile est capable de mobiliser et avoir un poids moral pour que toute tentative de récupérer cet espace public... Je vous donne simplement un exemple. C'est que après les attaques terroristes de l'été au mois de juillet à Sousse, le pouvoir a déclaré un peu l'état d'urgence en Tunisie. Ce qui est vraiment sur le terrain ne nécessitait pas la déclaration d'un état d'urgence. Cet état d'urgence était contesté par l'opposition. Juste après qu'il a déclaré ça, il y a une loi, ce qu'on appelle la loi de l'irréconciliation économique, que l'opposition en Tunisie considère que cette loi-là va amnistier tous les corrompus, tous ceux qui ont mis la main à la caisse de l'État, etc. Et ils ont voulu passer cette loi. Et ils ont voulu interdire, au nom de l'état d'urgence, enfin d'urgence suite des attaques terroristes, les manifestations. Et dont l'opposition, dont je fais partie, il faut le dire, on a obligé le pouvoir à céder et on a pu faire des réunions, des manifestations contre cette loi. Et maintenant, le traitement de cette loi-là a été reculé et on imagine que ça va être abandonné parce que moralement, il y a le poids aussi de la question morale. Ce n'est pas simplement une question de nombre quand on libère les espaces publics et les espaces... Sauf que c'est ce que j'ai dit. Mais c'est le rêve des révolutionnaires en Tunisie, c'est de pouvoir changer ce système politico-économique qui est corrompu, qui a jusqu'à présent profite toujours aux mêmes, malgré la crise. C'est ça ce que je voulais dire. C'est-à-dire que cette spontanéité-là a pu libérer politiquement, mais que ces gens-là qui ont essentiellement manifesté à cause de leurs conditions sociales et économiques, leur situation, parfois maintenant, elle est pire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu quand même renversé quelque part ce système-là et qu'il a pu être récupéré. Et maintenant, c'est l'ancien système avec le parti islamiste Nahda qui gouverne ensemble et qui gouverne de la même façon et qui veulent parfois porter atteinte à cet espace public de liberté de la même façon. Donc, c'est ça ce que moi, j'ai voulu dire. Entre la Casbah 1 et la Casbah 2, l'une qui s'est passée le 23 janvier et l'autre qui a repris le 20 février, bien sûr, les manifestations n'ont jamais cessé. La Tunisie, qui est un pays très organisé au niveau administratif et sécuritaire, est très contrôlé hein, au niveau administratif. Vous ne pouvez pas bouger en Tunisie, surtout avant, mais je crois qu'aussi maintenant, mais d'une façon beaucoup plus discrète, sans que vous êtes fiché quelque part. Donc ce poids de l'administration et de la sécurité, le verrou a sauté pendant ces événements-là, après le 14 janvier. Donc les gens avaient des revendications. De Casbah 1 à Casbah 2, les manifestations n'ont jamais cessé. Je crois que la différence entre la Tunisie, la Turquie et la Russie, et parfois l'Égypte, qu'il n'y avait pas que les places qui étaient occupées, c'est-à-dire le fait de manifester et que ces manifestations tournent dans les villes, a changé un peu la donne et n'était pas confiné. Et ça, c'était très important parce qu'on n'a pas pu les confiner, ce qui a émergé partout. Et que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que le système sécuritaire en Tunisie a lâché. Il n'a plus, je crois, il va falloir voir vraiment les dossiers des services de renseignement tunisiens et internationaux pour comprendre. Moi, je crois que les services sécuritaires en Tunisie ont lâché à la fin Ben Ali parce qu'ils ne pouvaient plus soutenir un système qu'eux-mêmes étaient, en tant qu'enfants de peuple, victimes. Donc, ils l'ont lâché. Donc, il y avait cette récupération de l'espace public. Et ce que moi, je disais, par exemple, entre la Casbah 1 et 2, les manifestations ont continué. Et l'apogée était le 20 février, parce qu'il y avait des demandes politiques différentes. Ceux qui soutenaient ce gouvernement, entre guillemets, d'Union nationale, disaient il va falloir appliquer l'ancienne constitution pour comprendre un peu les enjeux politiques. Parce que dans cette spontanéité, il y a bien sûr des partis politiques, il y a des lobbies d'influence, il y a des forces étrangères, il y a un système. Chacun a ses propres comptes. La spontanéité, il n'y a pas des calculs politiques. Mais toujours, il y a des calculs politiques. Et heureusement, parce que si la spontanéité, tout le peuple entend dans le calcul politique, on ne va plus s'en sortir. Mais il y a eu des calculs politiques. C'est-à-dire que, et je vais finir dans 2 minutes, c'est-à-dire que dans la Casbah 2, il y a ceux qui disaient ce gouvernement-là existe, il y a l'ancienne constitution, on reste dans la légalité, on fait des élections présidentielles comme la constitution, l'ancienne constitution le prévoit, dans 3 mois, et on a un président de la République. Et à ce moment-là, on a quand même quelqu'un légitime qui tient le pouvoir. On refait des élections parlementaires et le Parlement dure 5 ans et fait le rôle de législateur et de constituante en même temps parce que faire une constitution, ce n'est pas un jeu qu'on va le faire dans 1 an, mais qu'on prend notre temps. Un autre avis, qu'est-ce qu'il prenait c'est que Mohamed Ghannouchi, qui était le premier ministre, mais qui était irrité de Ben Ali, dégage. C'est le mot, hein, dégage, c'est un mot qui était très utilisé en Tunisie. Et qu'il y a des élections d'une assemblée constituante. C'est ces deux avis politiques. Ce qui est que, il faut, enfin, pour préciser, cette idée d'avoir une constituante, une assemblée constituante, c'était une demande du Parti ouvrier communiste tunisien depuis les années 90. Il est minoritaire, mais cette idée est devenue, soi-disant, mais cette idée est devenue à Casbah d'une façon majoritaire, soutenue par les médias, soutenue par pas mal de monde. Vous avez un pays qui, au niveau sécuritaire, presque plus de sécurité sur la moitié du pays. S'il y a des comités d'organisation sécuritaire qui coopéraient avec les militaires pour garder les quartiers contre les vendettas, etc. Et vous avez des centaines de bus loués qui arrivaient de l'intérieur du pays pour amener les gens du sud jusqu'à la Casbah. Les gens sont nourris, logés, etc. Qui a fait ça? Je ne sais pas. Qui est derrière ça? Je ne sais pas. Moi, j'ai pu rencontrer, mais c'est un témoignage, parce que moi, j'étais à la Casbah. Moi, j'ai rencontré, bien sûr, des militants. Sur la Casbah, on va trouver l'extrême gauche. On va trouver les militants de parti islamiste Nahda. On va trouver les salafistes, qu'après, ils sont devenus des djihadistes. On va trouver l'extrême gauche. On va trouver des avocats. On va trouver des syndicalistes. Mais moi, je suis tombé sur des gens qui touchait 30 dinars, l'équivalent de 15 euros, pour rester là toute la nuit. C'est un témoignage. Qui a fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on n'était pas en Tunisie entre des coups d'État à l'intérieur du système, des coups d'État superposés, et en même temps une spontanéité qui aidait à ça? Ça, je parle du micro, enfin, du macro-politique, hein, des enjeux qui étaient faits. Il y a des clans dans le pouvoir. Qui a joué contre qui? Il y a des forces influentes en Tunisie, les États-Unis et la France, par exemple, surtout. Qu'est-ce qu'ils ont joué pendant cette période-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui a dit aux militaires de ne pas intervenir? Qui a dit aux policiers de se retirer? Est-ce qu'ils se sont retirés d'eux-mêmes? Est-ce qu'il y a un système? Pourquoi le chef de sécurité de Ben Ali présidentiel, on l'a arrêté une heure après que Ben Ali est parti, or que c'est lui qui a fait partir Ben Ali? Vous voyez, ça, on est vraiment dans la politique, si je peux dire, politicienne, qui est derrière ça. Je veux vous dire, il y a des esprits qui se confrontent aussi. Les légalistes, en Tunisie, c'est une école un peu francophone. C'est-à-dire qu'on applique la loi malgré qu'on n'est pas d'accord et après on la change. Celui, la Casbah, était d'essayer de mettre un peu tout à plat pour réorganiser de nouveau. Ça, c'est un esprit un peu, si je peux dire, bouchot américain. C'est-à-dire de tout mélanger pour qu'après, vous pouvez jouer vos cartes. Vous imaginez... Enfin, je finis sur ça pour vous répondre. Pourquoi j'ai des doutes? Vous imaginez, ce qui a appelé Ghannouchi pour faire cette déclaration de l'article 56 de la Constitution et utiliser la Constitution, c'est pas le premier de la sécurité nationale, c'est pas le chef des militaires, c'est le troisième degré dans l'hiérarchie de
On ne peut pas... Parce qu'on n'a pas le temps de discuter dans le détail.
Je m'excuse, mais posez... pour ça peut démontrer pourquoi...
Il faudra aller dans le détail.
Voilà, pour dire pourquoi j'avais des doutes par rapport à des manipulations de la spontanéité, mais ça ne veut pas dire que la spontanéité n'a pas réalisé des choses.
Oui, j'ai été très heureux de l'entendre, parce que vous ne le disiez pas dans votre
intervention. Ah oui, mais parce qu'à la fin, j'ai...
Mais je pense qu'on n'a pas le temps d'aller voir de très près... Parce que là, vous soulevez des tas de questions sur la variété des groupes en jeu et apparemment ce que moi-même j'ignorais, c'est-à-dire le fait qu'on ne connaisse pas éventuellement ces éventuelles manipulations dont vous parlez, dont vous avez été le témoin. Mais ce qu'il faut retenir quand même, cette force dont vous avez parlé là dans votre réponse, et je vous en remercie. Donc on va continuer. Ce qu'on peut faire, c'est reprendre en fin de journée cette discussion, puisque ça touche quand même beaucoup à ce qu'est ce colloque, cette rencontre. Hein, c'est cette interprétation de la spontanéité, de ce qu'on peut en dire, etc.
C'est pour cela que l'intitulé de l'intervention était « De la spontanéité à la politique ».
Oui, j'ai bien compris.
La politique a pris le dessus après.
Oui, mais une des choses qui est apparue tout au long de cette histoire depuis 5 ans, c'est que la politique est aussi dans la spontanéité. C'est justement un des caractères. Donc ça pose des tas de questions. Une question qui est une question d'un parc, sauvegarder un parc pour la vie publique, c'est politique. Alors que c'est une pure question de vie urbaine, eh ben non. C'est les 20 centimes de transport, ça a été considéré instantanément comme une question politique. Donc voilà où va se nicher la politique. Bon, mais on va pas. Je pense qu'il faut reporter un peu la discussion, sinon on va éclater. Sacha, est-ce que tu peux dire quelque chose?
Je continue en anglais pour avoir une possibilité de partager le dialogue avec les participants non francophones. So I would like to use the luxury to be polemic, and first of all, I would like to say 3 things. So there was the protest in the place in Russia. It was Occupy type, I mentioned. And there was an occupation which didn't endure much, but still, well, finally Occupy Wall Street was not also a 3-year long movement. No, just to be precise that I'm quite critical about weekend rallies, weekend type of mobilization, but still in Moscow and some other large cities, there were some experiences which didn't problematize the space in itself, but the experience was in place. So the second point that it's quite impressive to hear that Russian protesters joined the pro-Crimea and pro-Putin majorities. They didn't join. I mean, where did you Just to mention that after the annexion of the Crimea, there were two manifestations which counted like from 20,000 to 30,000 people in Moscow. The first one was against the annexion of the Crimea, and the second against the participation of Russia in the Ukrainian war. I continued to conduct interviews in these rallies, and most part of the people had an experience of the previous manifestations, of the previous rallies. That means that those who protested in 2012, 2013, continued to protest against Russian politics in the Ukraine. I would say that it's more complex than that. Some people retreated from the protest. Some people accepted the consensus, but that doesn't mean that they share it in a profound level. I mean, they just don't criticize it. And some could join the pro-Putin majority, but not in the sense that they were just anti-Putin before and then became pro-Putin after, because in the protest movement, which was just this, avoiding some problematization of social issues and some other issues, there were people who voted Putin, strangely. I mean, I interviewed people who voted Putin, and in the pro-Putin rallies, I interviewed people who voted against Putin. So it's a bit more complex story, and it merits to be precise that they were and they are still in Russian society. People who protest against the saying Crimean Ukrainian policy of Russia in general. So, and what another one important point that the third one, the protesters did not consider themselves, did not identify themselves as a creative class. This was quite a clearly media constructed identification. But when you were interviewing, I was interviewing. And other partners of the group, of the research group, were interviewing people in the street. I am creative class was said by maybe three persons from 600. So it's also a high point of debate, the way the protest is defined by the media and the way the protest defines itself. And in the Russian case, the difference was quite flagrant because the media said middle class and creative class, and the protesters were saying many things, but the creative class. So, but still, they were working with media, and it's one of the replies to your questions, why they used English, some of them, not all. I just showed to you English slogans, because the tactical sense, and I think it's the same in Turkey, in Arab societies, is that people didn't trust the local media, and they were expecting that if the message passes by the Western media, it turns back to Russia more probably than if they speak directly to the Russian media. So this is what we observed also in Syria during the protests, that people tried to tweet and to communicate directly in English, also in the Ukraine, just because there was no trust to the governmentally controlled local media. And I think that speaking about social agenda, social issues, and social justice is not at all a kind of leftist fantasy which is violently put to the movement which doesn't speak about that. Because finally, when you interview people, and some interviews last like an hour, you start understanding that people might be interested in these questions, but they never had a chance to speak about them and to discuss them. On the opposite, when you observe societies like some Arab societies, Tunisian society, Egyptian society, American society, where the protests took place, also Spain and even France, you find social issues which are articulated. And I don't only speak about 1% against 99%. I speak, for example, for attempts in some other American occupies, like Oakland Occupy, to create, to recreate the hospital and to work with the defavorized population who couldn't access medical care under the current system during the Occupy process. I speak about the claims for occupation, for jobs in some Arab societies, which were articulated aside with democratic claims. So I for me, the question, without speaking especially to on Brazil, Mexico, and some Latin American societies where the social justice comes aside together with democratic and political claims. So for me, the question is not just like to put it violently somewhere where it is not present, the agenda of the social problematization. It's a possibility to articulate it with the current political claims or creative protest or nice protest, and to put under question the social qualities of the participants. And to discuss social qualities, I think it's really a very important thing, not in order not to go directly to the media images like, this is creative class, okay, we understand what they are. They're not creative class, they're not middle class, they do not define themselves like that, they don't have lifestyles of the middle or creative class. And so the question is, who are they? Who are we? In the sense, what we may share together, and this is the crucial question. And if we can't share the question about the management of education or of the social care, I think we have a problem. And when I was talking about the trap, I didn't mention the trap of spontaneity. I mentioned the trap of legality, because these social groups who were mobilized in Russia, spontaneously, they are predisposed to share the phantasm of complete or total legality of the activities. Not only we're nice, but we're also completely legal. And in this case, I think the question of social issues is especially important because it proposes a way to step out from the question of total legality and go into the questions of institutional reform and problematizing of institutional reform, which are in Russia, as in many other societies, completely neoliberal. And finally, this touches also the question, what remains after? Because if we don't discuss social issues with the participants, if we don't speak about the way the experience of the protest may be translated into experience of institutional participation, but not in the sense of the big political parties, in the sense of implementation of some justice questions in the job market, in institutional education, in medical care, we cannot answer the question, what remains? I mean, yes, something remains, but it may also be quite easily evacuated from the memory. And I think that for some of the participants, it's the case. And this is why I was so much interested in the Ukrainian case. I didn't participate directly in Maidan. I went after, and I asked people, I talked to people, I talked about the violence, the experience of the violence, the use of the constitutive violence in Ukraine, which didn't happen in Russia. And also the ways how people try to control the government. Because this is something which is quite important in all the stories of the protest. We know that the government reinstalls itself. And you're quite right, speaking about the Tunisian experience, that the government recreated the system of the governance which existed before, more or less. So we know that it happens. It happened in Greece, it happens in Egypt, it happened in Russia. So the question is how to, not really to block the government to do that, but how to influence, to impact the government not to do the same thing. And I think that in Ukraine, what was especially interesting for me, people arrived to change something, at least temporarily. It's quite a nice, quite an interesting experience.
On va bientôt, mais
pourriez aussi répondre à la question de Vincent.
Bien sûr. Merci. En fait, je veux d'abord remercier le commentaire de Vincent Duclair et clarifier une question. En parlant du parc de Gezi, je me suis concentrée sur sa relation avec le mouvement LGBTI et je ne suis pas entrée dans les détails, mais en fait, le lieu du parc Gezi, c'est un lieu qui a une signification en mémoire collective de tous les mouvements sociaux en Istanbul, je peux dire. Donc, dans la mémoire collective du mouvement de gauche, mouvement kurde, etc., c'est un lieu de rencontre où il y a des manifestations. Mais par contre, dans la vie quotidienne, je peux dire que les habitants du parc avant le mouvement étaient les travailleurs du sexe principalement et les enfants de Tarlabaşı qui sont en général les petits-enfants kurdes qui sont venus à Istanbul après la déportation forcée à Diyarbakır et au Kurdistan en général. Et ensuite... C'est aussi, je vais réagir avec ce que Vincent Duclair a dit sur la créativité du corps. Et pour expliquer ça, je veux souligner deux notions, la performance et la minorité. Et la performance, oui, bien sûr, je me base sur la définition de Judith Butler qui définit le genre comme une performance. Mais aussi... ce mot a un double sens avec l'art de la performance qui problématise, en instrumentalisant le corps, la relation de l'individu avec son corps et son espace. Et donc, je pense que dans ces moments-là, c'est un peu ça qui a permis cette créativité-là, être physiquement là et avoir une relation particulière avec l'espace. Et ensuite... en parlant des minorités, je vais me baser sur la définition au sens de Leusienne, selon laquelle la majorité est une abstraction et tout le monde est destiné à devenir minorité. Et c'est la minorité qui porte en elle le potentiel de créer un contre-discours de post-parole. Donc, dans le cas Gezi, je pense que tous les manifestants, même la classe dominante, est devenue minorité avec le stigmate de racaille et avec la violence policière extrême. Et donc, cette situation d'être minorité-là qui a permis la créativité, je pense.